Seigneur et de pouvoir ensemble méditer la parole de Dieu. Puissions-nous sortir de ces moments que nous partageons pleinement fortifiés par la parole, par l'autorité du nom de Jésus et effectivement par la vie de son esprit. Nous avons une vie à mener les uns et les autres, une vie qui nous a été donnée par Dieu, que nous le voulions ou non. C'est, je dirais, une loi naturelle, mais Dieu étant le créateur de toutes choses, nous devons nous souvenir que la vie que nous avons est un prêt de Dieu et que cette vie, nous devons la passer d'une manière ou d'une autre. Et dans la vie, il y a des circonstances qui sont difficiles. On ne peut pas toujours se réjouir des choses qui nous sont données ou que nous vivons, mais il ne faut jamais oublier qu'au-dessus de nous, là aussi, que nous le voulions ou non, il y a le divin Créateur, et que le divin Créateur a parlé aux hommes tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et il a dit des paroles extraordinaires. Et je voudrais commencer par cette parole de l'Éternel qui dit que ce que Dieu veut pour les êtres humains que nous sommes, c'est le bonheur. Alléluia, c'est le bonheur. Alors c'est vrai qu'on peut penser et dire que, et en toute vérité, que parfois ce bonheur, il est un peu terni, il est un peu en état de baisse par rapport justement aux circonstances de la vie que nous pouvons rencontrer. Mais il est une chose sûre et certaine, c'est que Dieu qui a dit qu'il veut notre bonheur, il a aussi la solution pour que nous soyons toujours dans le bonheur. Parce que le bonheur que Dieu veut nous donner, ce n'est pas un bonheur qui va se limiter et s'arrêter le jour où nous n'aurons plus de vie. Ce que Dieu veut nous aider à comprendre, au travers de sa parole, de son amour, du don de Jésus-Christ, que le bonheur de Dieu, c'est un bonheur éternel. Et il va donner à chaque créature le moyen d'entendre sa parole par diverses personnes, par divers moyens. Dieu va donner la possibilité à l'homme, on va dire l'être humain, d'entendre sa parole. Et ensuite, c'est au choix des uns et des autres d'accepter la parole ou de la refuser, de la vivre ou de la rejeter. Mais la pensée de Dieu reste et demeure la même. Ce que Dieu veut, c'est notre bonheur. Et il y a bien sûr la solution de Dieu, et un petit peu le thème de ce soir sera la meilleure des solutions. Parce que le monde nous propose pas mal de choses, mais on s'aperçoit que ça ne marche pas. En tout cas, pas toujours. Mais quand on se confie en Dieu, on se rend compte que Dieu, c'est lui qui a la meilleure des solutions. Alors on va essayer de voir cela, et j'ajouterai encore que nous soyons croyants ou non croyants, il faut passer la vie ici-bas, avec tout ce que cela comporte. Mais si l'homme ou la femme non croyante ne recherche pas le secours de Dieu, et pourtant Dieu est le secours en toute chose, le chrétien ou l'homme ou la femme qui a la foi et la foi en Dieu doit savoir que dans toutes les circonstances de la vie, Dieu, notre Père céleste, va manifester dans les temps d'aujourd'hui, comme il a toujours fait, déjà dans l'Ancien Testament envers son peuple, mais également lorsque la venue de Jésus a été, Dieu a manifesté par lui sa grâce, sa bonté, sa fidélité, Et il a apporté à ceux qui croyaient en lui, à ceux qui croyaient non seulement en Dieu, mais qui croyaient au nom de Jésus, à l'autorité de sa parole, eh bien, ils ont vu, ces gens-là, la grâce et la bénédiction de Dieu. Ils ont vu le secours de Dieu. Même l'individu qui ne croyait pas, mais qui a entendu parler de Jésus, eh bien, et qui est venu vers lui avec une foi toute simple, a reçu la bénédiction, et il crut en Dieu. Il crut en Jésus-Christ. Et sa vie a été changée. Tout ça pour vous dire, chers amis, que quelle que soit la situation, on va dire, de foi que nous avons, Dieu est toujours le même. Ce qu'il a fait hier, ce qu'il a fait il y a 6000 ans, il peut le faire aujourd'hui. Ce qu'il a fait il y a 2000 ans dans la personne de Jésus-Christ, il peut le faire encore aujourd'hui. Parce que n'oubliez jamais que Dieu est toujours le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, cela dépend de chaque individu. Et je voudrais m'arrêter en cette soirée pendant quelques minutes. J'aurais fini avant minuit, minuit moins cinq peut-être. Non, reste assis. Au travers de l'expérience d'un homme, on essaiera de détailler un petit peu, qui est dans la parole de Dieu. Et tout ce nom, vous le connaissez, pour la plupart vous connaissez, qui n'a jamais entendu cette expression « pauvre comme Job ». Oui. Mais enfin, moi, quand on va pas trop en parler, je vais essayer de dire le plus simple. Mais enfin, les gens, ils se trompent. Hein. Parce que Job n'a jamais été pauvre. Dans un temps, il y a eu des circonstances difficiles, on en parlera un petit peu. Mais Job, au début, il était riche. Et à la fin, il était plus que riche. On va essayer d'expliquer tout ça rapidement. Mais ce que nous voyons dans le comportement de Job, c'est qu'il a eu un petit peu, je vais le prendre dans ce sens-là, des hauts, des bas, des encouragements, des découragements. Ça a été une vie difficile dans les temps difficiles qu'il a connus. Alors, je voudrais quand même souligner des paroles qui ont été données à Job au moment de cette grosse tempête. On a chanté tout à l'heure que dans la tempête, Dieu était là, et puissions-nous sortir en cette soirée avec une certitude, c'est que Dieu est toujours là. Alléluia. Et là, dans le livre de Job, alors qu'il était au milieu de la tempête, alors qu'il se posait des tas de questions, au bout de quelques jours de son épreuve, je citerai un petit peu, de son épreuve, il nous est dit que trois amis sont venus le voir. Leurs propos n'ont pas été toujours justes. Mais en regardant un petit peu, à un certain moment, un homme a eu comme un éclairage, pour moi je le prends ainsi, pour ainsi dire peut-être reprendre Job, mais en même temps pour lui montrer quelle était la meilleure des solutions. Alors on va lire cela pour nous, hein, et on va prendre les paroles pour nous. Si nous sommes dans des difficultés, dans des problèmes, si nous sommes peut-être dans la tempête, au creux de la tempête, si nous n'arrivons pas à sortir de nos difficultés, eh bien, il y a une solution. Et là, cet homme, qui s'appelle Éliphaz, va donner à Job quelque chose que je trouve pour moi important. Je pense que pour votre vie, cela sera aussi nécessaire lorsqu'on se trouve dans le creux de la tempête. Regardez ce qui est écrit dans le chapitre 22 de Job, et je lirai au verset 21. Il est dit ceci, je pense que vous avez trouvé, parce que Job se trouve juste avant les psaumes. Donc, il est écrit ici, « Accorde-toi donc avec Dieu, et tu auras la paix. » Par là, ce qui te reviendra sera bon. Reçois de sa bouche instruction et mets ses paroles dans ton cœur. Amen. Je ne lis pas l'autre verset si tu reviens au Dieu Tout-Puissant, parce que je voudrais vous dire quand même que Job, bien que dans son état, il a cherché à comprendre. il n'a quand même jamais rejeté Dieu de sa vie. On pourrait d'ailleurs même se poser une question, hein, pourquoi tant d'épreuves permises à Job? Car vous savez que Job, je le disais un petit peu tout à l'heure, était un homme riche. Quand on lit le chapitre premier, on s'aperçoit qu'il ne manquait de rien et qu'il avait un grand cheptel, qu'il avait des enfants merveilleux, des filles et des beaux-fils, qu'il avait des belles maisons, qu'il avait une bonne santé. Je ne l'ai pas vu, mais je vais le dire, qu'il avait une belle épouse. Il avait tout. Et ce qu'il avait par-dessus, c'est que dans ces temps, on va dire, où tout lui souriait, il avait une communion réelle, personnelle, avec Dieu. Et cette communion réelle et vivante, vraie, que Job avait avec Dieu, eh bien Dieu, à un certain moment, va mettre en exergue devant l'adversaire qui se présente devant lui, c'est-à-dire le diable, Satan, se présente devant Dieu. Eh bien, Dieu va dire ceci. Alors, pour ne pas me tromper, je vais vous le lire. Il dira, « Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. » C'est Dieu qui parle ainsi. Hein. Je ne suis pas jaloux, hein. Mais j'aimerais bien que Dieu pense la même chose. Pas vous. Vous savez que dans les Épîtres, il est quand même écrit que nous devons être les uns et les autres, tous ceux qui croient en Dieu doivent être agréables à Dieu. Oui. Il faut savoir faire plaisir à Dieu. Parce que lui, il nous fait plaisir. Non ? Quand il nous accorde les bénédictions, quand il va au-delà de ce que nous souhaitons, quand il prépare nous l'avenir et qu'il nous révèle notre avenir, qu'il ferme les portes et qu'il en ouvre d'autres, Dieu nous fait plaisir puisqu'il veut notre bonheur. Alléluia ! Alors de temps en temps, il faut faire plaisir à Dieu. Alléluia ! Alors vous allez dire, qu'est-ce que je vais pouvoir lui offrir ? Bientôt, c'est la fête des pères. Comme c'est mon Père éternel, qu'est-ce que je vais pouvoir lui offrir? Moi, j'ai la réponse. Votre vie. Amen. Mais une vie qui appelle des sacrifices pour lui être agréable. Car si vous regardez bien le texte que je viens de citer, de Dieu à l'encontre de Job, c'est qu'il y ajoutera, entre autres, et je mets le point là-dessus, c'est un homme qui craint Dieu et qui s'écarte du mal. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il craint Dieu. Nous craignons Dieu. Tout homme qui a la foi, toute femme qui a la foi, a dans son cœur la crainte de Dieu. Mais il n'ajoute pas seulement la crainte de Dieu, il ajoute qu'il s'écarte du mal. C'est-à-dire qu'il respecte en tout point ma parole, qu'il accomplisse. Et que l'homme qui aime Dieu fasse le bien autour de lui et non le mal. Entre guillemets, je dirais, parce que je ne connais dans la Bible qu'un seul homme qui a été parfait, c'est Jésus-Christ. Si Jésus-Christ n'avait pas été parfait, jamais il n'aurait pu donner sa vie à la croix. Mais c'est parce qu'il était dans une perfection extrême, dans l'obéissance à la volonté de Dieu, qu'il a vécu sans péché, sans faire le mal, puisqu'il a été tenté de la même manière que nous, mais qu'il n'a pas succombé à la tentation, il a résisté au diable, alors il a pu accomplir ce que Dieu lui avait demandé, donne ta vie pour sauver les hommes et les femmes perdus, afin qu'ils connaissent le bonheur. Pas uniquement terrestre, j'insiste sur ce point, le bonheur éternel. Alléluia. Alors, pour reprendre une expression un petit peu de ce monde, je dirais que pour Job, tout baigne. C'est extra. comme on dit, ça roule. Voilà, c'était la fête, c'était la joie. D'ailleurs, quand toutes les épreuves vont tomber d'un seul coup, dans une seule journée, sur les épaules de Job, ça a été pour lui une catastrophe. Hein? Vous savez que Job, en quelques moments, il a eu les souffrances matérielles, c'est-à-dire la perte de ses troupeaux. Il a eu les souffrances affectives, la perte de tous ses enfants. Tous ceux qui étaient réunis justement pour faire une fête familiale. En un seul coup, terminé. Il a eu aussi les souffrances physiques terribles. Un ulcère de la tête aux pieds. Et pour se soulager, il avait un tesson pour se gratter. Pour faire passer les douleurs, les démangeaisons. Que de souffrances. Que de souffrances. Et il y a aussi à tout cela la souffrance morale et spirituelle qui s'ajoute. Devant, on dira, la proposition de son épouse qui, le voyant dans cet état-là, va jusqu'à lui dire « Tu demeures, je cite les paroles, tu demeures dans ton intégrité, c'est-à-dire dans ta foi en Dieu, intègre, maudit Dieu et meurs. » Mais ce n'était pas pour Job la meilleure des solutions. Et devant cette réponse, je la cite déjà, devant plutôt cette proposition de cette épouse, Job, dans toute sa souffrance que nous venons de citer, je dirais dans toutes ces souffrances que nous venons de lire et citer, eh bien Job va garder sa position de foi. Nous avons reçu de Dieu ce qui était bon, nous pouvons recevoir ce qui est mauvais. Dieu nous a donné, Dieu a repris, que le nom de Dieu soit béni. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais quelle souffrance, d'un côté, et d'un autre côté, quelle foi. Non ? Moi, je ne sais pas, je vais prendre un exemple. Si tout cela m'était arrivé en une seule journée, il faudrait venir me chercher parce que je suis comme une serpillière. Vous rendez compte ? Dans une journée, il n'a plus rien. Et là, bien sûr, il a commencé à avoir en lui, au bout d'un certain temps, des questions qui se posent, des pourquoi, des comment. Il parle avec l'un, il parle avec l'autre. Ses conseillers, là, amis, ne sont pas toujours des bons conseillers. Mais là, nous arrivons dans le texte que nous avons lu et nous nous apercevons que, en fait, dans ses propos, Epiphas va donner une direction qui est, pour Job, comme pour nous ce soir, la meilleure des solutions. Peut-être quelqu'un là, parmi nous, pour la première fois, ou des frères et sœurs sont là, connaissent Dieu, n'est-ce pas ? Et ils sont, comme on le disait, dans la tempête, dans les difficultés. Tout s'écroule, on a l'impression que c'est fini, plus personne ne vient nous aider, nous comprendre. On a des telles situations que c'est comme des vagues qui se déferlent sur nous, un petit peu comme Job. Quand une est presque, qu'on croit que c'est fini, il y en a une autre qui arrive par derrière. On n'en sort plus. Mais je voudrais vous dire ce soir, avec beaucoup d'amour et de la part du Seigneur, Dieu vous aime et il peut vous tirer de votre problème. Il peut guérir vos corps malades. Il peut calmer la tempête. Alléluia! Parce qu'il est toujours le même. Par contre, il faut quand même s'arrêter sur ses propos. Il est dit ici, dans ses propos qui ont été donnés, n'est-ce pas? Parce que je crois que le secours de l'Éternel, dans tous ces temps que nous pouvons connaître de difficultés, de peines, peut-être de larmes, eh bien, Dieu a la meilleure solution. Et la première des solutions qu'il veut apporter dans le cœur des hommes, quelqu'un dira l'amour. Oui, l'amour de Dieu qui surpasse toute chose. Mais quand je regarde ce que Jésus dit à ses disciples, je trouve que ça c'est extraordinaire. Car au milieu des tempêtes, ce que le Seigneur veut faire en premier, c'est vous apporter la paix. La paix intérieure. Quand Jésus commence à parler de son départ à ses disciples, il leur lancera cette phrase que tous les lecteurs de la Bible doivent connaître, et peut-être connaissez-vous ces mêmes propos. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde la donne. Je vous donne la paix de Dieu, la paix de mon Père. Tu es peut-être rentré troublé, peiné, t'as pas de solution. Tu es peut-être même intérieurement en colère, plein d'amertume, peut-être même plein de haine, parce que personne ne te comprend, parce que personne ne t'aide, parce que tu te sens seul ou seul, isolé. Tu te bats et tu vois que rien n'arrive. Tu es amer au possible. Mais le Seigneur te dit ce soir, je veux te donner ma paix. Je veux te montrer ma gloire. Je veux te montrer ma puissance, qui est une puissance de délivrance, de paix, de bénédiction et de bonheur. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur veut faire dans le cœur de tous, mais peut-être de quelqu'un en particulier ce soir. Il est là, il est présent. On n'est pas seulement réunis dans un esprit familial, ça fait plaisir. On n'est pas seulement venus pour chanter des cantiques, ça fait plaisir à Dieu. Mais nous sommes venus pour faire une expérience avec celui qui est au milieu de nous et qui s'appelle Jésus et qui nous attend et qu'il veut vous dire « Je t'ai entendu et j'ai la réponse, j'ai la meilleure solution. » Alléluia. La première des choses que je souligne, c'est qu'il est écrit « Accorde-toi avec Dieu. » Accorde-toi. Ou je dirais en plus, attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Lie-toi avec Dieu. Qu'il y ait entre toi et Dieu un véritable lien d'amour. Mais que l'amour ne soit pas en sens unique, qu'il ne vienne pas uniquement de Dieu, mais que toi, en réponse à l'amour de Dieu, tu donnes ton amour. En lui disant, Seigneur, je t'aime. J'entends ta voix et je veux te suivre. Alléluia. Et te rester fidèle. C'est ça ce que le Seigneur demande. Avant toute chose, c'est que nous nous approchions de Dieu, que nous nous approchions de lui et que nous nous approchions de lui au travers du nom de Jésus parce qu'il a, lui, Dieu, en Jésus-Christ, la solution de la délivrance. Alors, je ne sais pas, peut-être, vers qui vous vous êtes allé et à quoi vous êtes attaché. Alors, j'ai fait, si vous me permettez, une petite liste. Et là, si vous aviez le temps à la maison, si vous arrivez à noter, vous pouvez retrouver cela au travers des versets bibliques. Mais il y en a qui sont, par exemple, attachés aux richesses terrestres. Et les richesses terrestres n'apportent pas le bonheur. Il y en a qui me regardent là. Le pasteur, il ne sait pas ce qu'il dit. Comment ça, je ne sais pas ce qu'il dit? Vous savez que les richesses terrestres, elles peuvent vous être enlevées du jour au lendemain. Quand vous les avez... Ah, c'est super! Je suis sur un matelas, là. Ça, ouf, les billets, là, sont là. Ouais, super! Qu'il y a un crack boursier, vous allez voir. Une main devant, une main derrière. Comme disent les gens du monde. Vous savez, un jour, permettez-moi de vous donner ce témoignage. Il y a un jeune homme, en ce temps-là, c'était un jeune homme. Il était fils d'un homme très riche, qui avait des usines. Alors, il avait tout ce qu'il voulait. Mais il avait un bon copain. Et ce bon copain, un jour... lui a rendu témoignage d'un ami qu'il aimait. Et il lui a parlé de Jésus-Christ. Et il lui a dit, tu sais, le Seigneur est celui qui peut répondre à tes besoins, il est celui qui peut t'apporter le bonheur, un petit peu ce qui est dit là. Et ce garçon-là, il lui a répondu, mais tu me parles à moi de cela? Mais moi, j'ai tout ce que je veux. Quand j'ai besoin de quelque chose, je vais, je prends, et je vais acheter. Regarde, j'ai même la plus belle voiture. Et avec la plus belle voiture, j'ai les plus belles filles. C'est comme ça aujourd'hui, hein? Mais c'était déjà avant, hein? Ah, il avait tout ce qu'il voulait. Et pendant un temps, ça a été comme ça. Pendant quelques années. Et un jour, son ami, là, qui lui a parlé de Jésus, reçoit une lettre. Et il lit l'adresse. Et qui a envoyé la lettre? C'était son copain de quelques années en arrière. Et dans cette lettre qu'il est en train de lire, alors je résume un petit peu, il dit que il regrette de ne pas avoir continué un petit peu son amitié avec lui. Il a été pris par les richesses du monde. Mais qu'à l'heure actuelle, il était au plus mal. Il était à l'hôpital avec une grave maladie. Et là, il s'est souvenu de ce que lui avait dit son ami chrétien. Et dans cette lettre, il dit, tu sais, tout ce que je t'ai dit, l'usine, les voitures, tout ça, maintenant que je suis malade, il faut que tu saches que l'usine, elle a fait faillite. On n'a plus rien. J'ai tout perdu, on a tout perdu. En clair, on est sur la paille et maintenant je suis là, dans le lit de l'hôpital avec cette maladie. Je ne sais pas si je vais m'en sortir. Quelle tristesse. Et puis au bout, pour terminer la lettre, il dit, si tu veux venir, viens me parler de ton Jésus. Ah oui, il s'est souvenu. On ne s'aime jamais en vain, mes frères et sœurs. Mais ce garçon, il a tout eu en son temps. Mais au dernier moment de sa vie, dans les instants qui précédaient peut-être son départ, ce garçon s'est souvenu de Jésus et que seul Jésus pouvait lui apporter la paix. Seul Jésus pouvait lui apporter la solution. Seul Jésus pouvait le guérir. Les hommes ne pouvaient pas, mais Dieu peut. Quelle grâce! Il est celui qui apporte la paix. Les richesses ne vous apportent rien. Les richesses, c'est des joies passagères. Elles ne demeurent pas éternellement. Puis il y a aussi la religion. Ah ben moi j'ai ma religion. Mais vous savez, au cas où vous ne le sauriez pas, la religion n'a jamais sauvé personne. Non, personne. Alors bien sûr, on peut prier les idoles, hein, quelle que soit la religion, hein, quelle que soit la pensée philosophique, on peut. Hein. On nous, par exemple, on nous parle d'un dieu Bouddha qui peut résoudre les problèmes. Qui est? Vous ne savez pas que Dieu, Bouddha, c'est pas un dieu? C'est un homme. Il vous parle philosophiquement. Mais il ne pourra rien pour vous. Moi, le Dieu que je vous annonce ce soir, c'est un Dieu qui peut toutes choses pour vous. Il peut aller au-delà de ce que vous demandez et espérez. Mais les idoles ne peuvent rien. Relisez les textes bibliques si vous avez le temps. Hein, il est écrit que les idoles, elles ont une bouche, ne parlent pas, des yeux ne voient pas, des oreilles n'entendent pas. Et ceux qui les font sont semblables à ces idoles. Quand Dieu dit ça, c'est qu'il dit les hommes qui les font sont aussi morts que les idoles. Et vous qui implorez les idoles, vous êtes aussi morts que les idoles parce qu'elles ne peuvent rien faire. Elles ne voient pas, elles n'entendent pas, elles ne parlent pas, elles n'agissent pas. C'est ça la vérité. Moi, je vous parle d'un Dieu vivant. Un Dieu qui entend, un Dieu qui parle, un Dieu qui agit, un Dieu qui bénit, un Dieu qui calme les tempêtes. Gloire à Dieu. C'est cela la vérité. Et il ne faut pas la taire, il faut la donner. La religion de mes pères ne sert à rien. Il m'est arrivé, peut-être vous aussi, frères et sœurs, de rendre témoignage à certaines personnes, et ce n'est pas une critique, c'est une réalité. Au bout d'un certain temps de discussion autour de Jésus-Christ, de dire, ah ben écoutez, moi, c'est simple, on est catholique de père en fils. Vous savez, moi, j'ai été élevé tout petit dans l'église où je suis aujourd'hui, pas dans le bâtiment, là, je veux dire dans la vie de la foi. Mais ce n'est pas parce que mes parents ont été baptisés que... Moi, je n'avais pas besoin d'être baptisé ou d'accepter simplement pour faire plaisir à mes parents. Il a fallu que je fasse ce qu'on appelle et ce que la Bible appelle, la conversion. Que je reconnaisse que Jésus-Christ était mon sauveur, qu'il était mort à la croix pour moi et que tout jeune, eh bien, malgré cela, j'avais déjà péché. Parce que tout homme qui naît est pécheur. Et nous avons tous besoin du pardon du péché. La religion ne sauve pas, mais Jésus sauve. L'amour de Dieu nous sauve. La preuve, il nous a donné Jésus-Christ à la croix. Alléluia. Et celui qui croit au don de Jésus sera sauvé pour l'éternité. Alors, ne nous attachons pas à toutes ces choses. Ah, je vais quand même souligner un autre petit point parce que c'est une mode qui dure. Ça s'appelle les sciences occultes. Hein? Vous connaissez les sciences occultes? Ben, il vaut mieux pas. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que Dieu est plus fort que les sciences occultes. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui se laissent prendre un petit peu aux sciences occultes, à la bonne aventure. Alors on va voir telle ou telle personne. Alors il y a des gens qui vont voir certaines personnes, ils vous font rentrer dans le lieu où ils vont vous dire votre avenir. Et moi, je me suis toujours posé une question. Est-ce que vous permettez que je vous demande si vous avez la solution? Parce que moi, je ne l'ai pas trouvée, celle-là. Parce que ce n'est pas une bonne solution. Parce que je me suis toujours demandé comment une femme qui dit l'avenir, ou un homme dit l'avenir, comment on peut dire à la personne son avenir lorsqu'elle dit qu'elle voit son avenir dans le marc du café? Parce que cet avenir-là, c'est un avenir tout noir. Hein? Vous rentrez cassé et vous ressortez énervé. Parce que là, quand vous sortez, vous vous sentez lésé de 300 euros. Hein? Je ne connais pas les tarifs, hein, celui-là je viens de l'inventer. Mais moi, tout ce que je vous propose ce soir, c'est gratuit. Tout ce que fait Dieu, c'est gratuit. Toutes les bénédictions qu'il nous accorde, c'est gratuit. On n'a pas besoin de faire le pèlerinage. On n'a pas besoin d'aller jusqu'à une montagne quelconque. Ça ne sert à rien. À rien du tout. Parce que celui qui croit en Dieu, il est béni. Alléluia. Et je le rappelle et je le dis, Dieu est plus fort que les ténèbres. La lumière divine est plus forte que les ténèbres du monde. Les sciences occultes, ça ne vous sert à rien. Ça vous met le bourdon. Il y en a même qui vont jusqu'à se faire consulter la main pour connaître leur avenir. Vous êtes déjà arrêté à ça? Bon, moi je suis peut-être un peu naïf sur les bords, hein. Excusez. Mais je me dis, donnez-moi votre main et je vous dis l'avenir. Je vais vous dire la longueur de votre vie. Et puis, il ne se trompe jamais, hein, parce qu'il sait toujours la même ligne dans la main et vous dit, vous aurez une longue vie. Le gars, il sort, il marche une peau de banane, il se casse le rocher, il n'y a plus personne. Mais vous avez une longue vie. Hein. Et quand je regarde, entre guillemets, quand je regarde ma longueur de vie, elle fait quoi? 7 cm. Ouais, je vais peut-être partir bientôt. Ma vie, elle est en Dieu. Mon avenir, il est en Dieu. Et il n'arrive que ce que Dieu veut. Et je sais qu'un jour, il me rappellera. Alors, plus ou moins long. Alors, moi, je vais vous dire, je préfère me fier à la Bible qu'à ces gens qui consultent les ténèbres ou qui font semblant de consulter les ténèbres, car il n'y a aucune victoire. Je prends encore 5 minutes là pour vous dire et pour vous dire que Dieu est le plus fort. Il y avait un jeune homme dans le lycée, dans l'université où il était, et il avait quelques camarades avec lui, hein, dans le cours qu'il avait pris. Et puis un jour, ses camarades sont venus le voir. Et ils lui ont dit, tiens, ce soir on fait une séance. Séance nocturne, vous savez, là où les tables bougent, etc., où il y a des voix qui parlent. Et le gars lui dit, non, 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 non. Et l'autre, il dit, mais si, viens, tu verras. Mais non, j'ai pas envie. Alors, je vais arrêter, j'abrège. Mais il y a une chose qu'il ne savait pas. Pourquoi ce garçon ne voulait-il pas aller? Vous ne savez pas, vous non plus. Hein? Alors je vais vous le dire. Parce qu'il était chrétien. Et il voulait avoir aucune communion avec ces gens-là. Mais ils ont tellement insisté que le garçon a dit, ok, j'y vais. Parce qu'il avait d'un seul coup en lui cette, en son cœur, il a eu, vas-y. Alors il y est allé. Parce que lui, ce qu'il voulait, c'était confondre cela. C'était sa prière. Il faut les confondre. Alors il est allé à cette séance. Et pour montrer sa position, il était là en spectateur. Tout le monde était assis là, en rond, là, autour de je ne sais pas quoi. Et lui, il était resté debout. Et on lui a dit, mais viens donc, assis-toi. Il dit, non, moi je ne participe pas. Et puis de toute façon, j'ai foi en Dieu. Alors moi, je suis venu là en spectateur. Ça, c'est l'exemple qu'il prend, mais il voulait les confondre. Alors les autres l'ont laissé. Et ils ont commencé leur incantation. Ils essayaient, vas-y, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Et rien ne se passait. Finalement, le chef qui était là, le chef, celui qui dirigeait les choses, se tourne vers le chrétien et vous savez ce qu'il a dit. Ça me tape, il a dit, c'est presque ça. Il lui a dit, va-t'en, parce que tant que tu seras là, on ne pourra rien faire. Il avait confondu ces gens-là par sa sainte présence. Et lui, pendant qu'il faisait ça, il priait le Seigneur. Alléluia. Dieu est plus fort que le diable. Dieu a dans ses mains le pouvoir d'arrêter toutes les actions du diable et il a le pouvoir, la puissance de vous délivrer de tout ce qui vous accable. Alléluia. La meilleure des solutions, mes amis, pour avoir la paix et le bonheur, c'est de s'accrocher à Dieu. C'est de s'attacher à Dieu. C'est de vivre avec Dieu. C'est la meilleure solution. Réconcilie-toi avec Dieu et tu trouveras le bonheur. Alléluia. C'est ce que dit le psalmiste dans le chapitre 2, verset 12. Heureux tous ceux qui se réfugient en lui. Amen. Donc tous ceux qui vont partir ce soir, vous êtes des gens. Il y en a deux. Deux Joël, j'ai raté. Je reprends. Tous ceux qui sont là ce soir, ils repartent. Pourquoi? Ben vous devez répondre parce que je reçois Jésus dans mon cœur. Ou parce que je vis avec Jésus. Parce que j'ai confiance en Dieu. Parce que je crois en ses promesses. Alors je suis un homme heureux. Je suis une femme heureuse. Je suis un jeune homme heureux. Une jeune fille heureuse. Parce que Jésus est le maître de ma vie. Alléluia. Et qu'il me prépare une place dans le ciel. Amen. Alors, je vais arrêter là, parce qu'il y avait l'autre point aussi qui dit, reçois de sa bouche instruction. Reçois instruction. C'est-à-dire, reçois la parole de Dieu et mets-la en pratique dans ta vie. Garde-la au fond de ton cœur. Vis-la avec ton cœur. Vis-la avec la foi. Parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Voilà ce que nous apprend la parole de Dieu. Vous savez, le Seigneur est tout puissant. J'apprends rien aux frères et sœurs, là, peut-être à quelqu'un. Mais sur une simple parole de Jésus, il y a le miracle. Hein? Dis un mot et mon serviteur sera guéri. Vous savez, un jour, il y a un aveugle de naissance vers lequel Jésus s'est approché. Il était donc aveugle de naissance. Alors Jésus, vous savez, il fait lui aussi, c'est Dieu, fait homme, fait ce qu'il veut. Et là, ça peut nous surprendre les uns et les autres. Mais devant cet aveugle, Jésus va faire de la boue. Il va cracher dans la terre, c'est les termes exacts, je ne fais que citer. Il va faire de la boue, prend cette boue, il a mis sur les yeux. Cet aveugle aurait pu rouspéter. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Je vois rien, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu me mets sur la figure? C'est pas fait pour me enlever les rides, ça. Qu'est-ce que tu me mets là? De la boue. Ah bon, de la boue. Oui, eh bien, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Cet homme n'a rien dit. Hein. C'est Jésus, il a dit. Alors je fais ce que Jésus me dit. Et il s'en va. il trouve la fontaine de Siloué, il prend l'eau, il se lave, et dès qu'il se lave, la première des choses qu'il voit, peut-être la lumière, mais en même temps, il voit quelque chose qu'il n'avait jamais vu. Quand on dit la lumière, ça aurait pu être le soleil. Mais le soleil, savez-vous qu'il avait déjà ressenti les rayons de soleil? On les ressent sur nous. Oui ou non? On sait quand c'est chaud, on sait quand c'est froid. Mais lui, ce qu'il voit là devant, c'est pas comme le soleil, non. Là, il est en train de voir son visage pour la première fois. La première fois. Tout ça parce qu'il a écouté Jésus. Parce qu'il a reçu l'instruction simple. Il n'y a pas eu un sermon. Il y a eu une seule parole. Va et lave-toi au réservoir de Siloué. Mais comment je vais faire? Je suis aveugle. Il n'a pas dit rien du tout. Il a fait ce que Jésus lui a dit. Et cet homme, il est retourné vers les siens. Et puis il s'est mis à louer Dieu. Et reconnaissant avec Dieu. Mais quand Dieu bénit, il ne faut pas le mettre de côté. Il faut rester avec lui. Il faut s'accrocher. Il faut vivre avec lui. Vivre de sa parole. Vivre de ses promesses. Les appliquer à notre cœur. Les croire. Et si je crois, je vois. Dites pas tous amen, hein. Êtes-vous aveugle? Et là, je ne parle pas dans le sens physique, je parle dans le sens spirituel. Êtes-vous aveugle? Ou est-ce que vous voyez le miracle de Dieu? Est-ce que vous voyez la puissance de Dieu? Est-ce que vous voyez l'amour de Dieu? Est-ce que vous voyez les promesses que Dieu vous a envoyées? Est-ce que vous voyez la puissance du nom de Jésus-Christ? Parce que si vous voyez toutes ces choses, vous n'êtes pas aveugle, vous êtes dans la foi. Et la foi fait qu'on peut déplacer toutes les montagnes. Alléluia! Alors, eh bien, le choix vous appartient. Ou je crois, ou j'accepte, ou je m'attache à Dieu comme il est dit là. Et je vis avec lui, et je vis pour lui, et je reçois instruction pour aller plus loin, pour prendre courage quand ça ne va pas trop fort. Pour goûter chaque jour à sa paix, à son bonheur, à la vie puissante de son esprit, car il accorde son esprit à ceux qui croient. Alléluia. Je terminerai par un verset, si vous voulez bien. Peut-être deux. Oui. Deux. Le premier, psaume 91, versets 14 et 16. « Puisqu'il s'attache à moi, dit le psalmiste, je le ferai échapper. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai moi-même avec lui, dans la détresse. » Je le délivrerai et le glorifierai. Alléluia. Je le rassasirai, et ça fait plaisir, de longs jours. Mais ce qu'il y a de plus merveilleux encore, et c'est ça la meilleure solution, et lui ferai contempler mon salut. Amen. Alors j'ai commencé par Job, un petit peu. Je vais finir avec une parole de Job. Amen. Parce que Job, au milieu de sa détresse, eh bien, contrairement à ce conseil qui est bon pour nous, attache-toi à Dieu, il était attaché à Dieu. Et vous savez comment on sait qu'il était attaché à Dieu? Dans sa détresse, qu'il n'avait pas lâché la main du Seigneur, c'est lorsqu'on lit Job 19, et les lecteurs de la Bible doivent connaître ça, versets 25-27. Écoutez, là il est au milieu de la tempête. Rien n'est devant lui. C'est toujours sombre, c'est toujours la détresse. Alors lui, il va dire à ses trois copains qui sont là devant lui, là, ses trois amis, d'un seul coup, ça sort, ça ne peut plus rester. Ça sort du cœur. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Après que ma peau aura été détruite, il parle déjà de résurrection. Moi-même, en personne, je contemplerai d'eux. Non seulement il parle de résurrection, mais il parle qu'un jour nous verrons Job parce qu'il y est là-haut. Il avait une foi terrible. Dans l'épreuve, il dit « Je contemplerai Dieu parce que je ressusciterai. C'est lui que moi je contemplerai, que mes yeux verront et non quelqu'un d'autre. » Et puis, regardez ce qu'il va dire encore. « Mon cœur languit au-dedans de moi. » Mais qu'est-ce qui languit ? Pas seulement la bénédiction. Il sait que son corps est atteint. Il part quand même de mort, même si mon corps est détruit. Mais je sais que mes yeux le verront. Et mon cœur languit au-dedans de moi de le rencontrer et de le voir. Alléluia ! Avons-nous les mêmes convictions ? Avons-nous la même assurance ? Vivons-nous pour lui ou pour nous, pour nos plaisirs, et non pour sa volonté ? Car celui qui fait sa volonté, il voit la gloire de Dieu. Et un jour, il pourra dire de tout son cœur, comme Job, « Mes yeux le verront. » Alléluia. Alors, je disais, Job, on dit le pauvre Job, il était bon, il était riche au départ. Permettez-moi de dire, il était riche à l'arrivée. Parce que Dieu lui a tout rendu au double. Il a été deux fois plus. D'un seul coup, il y en a qui ont les yeux, je ne sais pas, je crois boire des euros là dans les yeux. Si je crois, il double tout. Mon salaire, bon, ne vous inquiétez pas. Même si votre salaire n'augmente pas, n'oubliez jamais que Dieu est celui qui pourvoit à tous vos besoins. Alléluia. Dieu a béni. C'est ça qu'il faut retenir. Dieu a guéri Job. Dieu a béni Job. À un tel point qu'il est même écrit, moi, quand je lis ce texte, je trouve ça extraordinaire. Il est dit que même les filles, parce que Dieu lui a rendu des filles, et elles étaient plus belles que toutes les autres. Alléluia. Il y a quelqu'un qui attend un enfant, que ce soit une fille, elle sera plus belle que toutes les autres. Bon, personne dit amen, c'est qu'il n'y a personne qui attend d'enfant. Voilà ce que j'avais sur le cœur ce soir à vous donner. Oui. Et sans rentrer dans le détail, eh bien, ça n'a pas été facile parce qu'il y a eu un petit combat en moi pour vous apporter ce message. Mais Dieu est grand. Et je bénis Dieu de ce qui m'a donné ce message. Pour vous. Pour vous. Pour moi. Afin de ne pas me laisser embarquer par ce qui n'est pas à sa gloire, mais que je sache toujours que quel que soit le chemin par lequel il nous fait passer, il détient dans ses mains la meilleure solution. Que Dieu soit béni, qu'il vous bénisse. Joël, tu